Spotkania europejskie.
Rozumiejąc tę Europę.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromy z Europy.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bonsoir et bienvenue au Carrefour de l'Europe. Au lendemain des élections régionales en Catalogne, le résultat est pour le moins contrasté. Les partis indépendantistes ont obtenu la majorité des sièges au Parlement de Barcelone, mais pas la majorité en voix. Artur Mas, le leader des séparatistes, a crié victoire lors de la proclamation des résultats, mais on est loin du plébiscite qu'il escomptait en faveur de l'indépendance. Mariano Rajoy, le Premier ministre espagnol, s'est dit ouvert au dialogue, sauf sur un point, la souveraineté de l'Espagne et la Catalogne est donc dans l'impasse. En Grande-Bretagne, en Italie ou en Belgique, cette élection régionale a été suivie de près car l'Écosse, l'Italie du Nord ou la Flandre belge ont elles aussi des tentations sécessionnistes. Quant aux institutions européennes à Bruxelles, elles sont restées muettes, mais elles restent inquiètes face au risque de balkanisation du continent. Je vous présente les invités qui ont rejoint les micros de Carrefour de l'Europe. Raúl Martínez, bonjour, bon dia.
Bonjour, bon dia.
Hola, on peut dire aussi hola.
Oh là,
c'est un peu plus familier
pour les amis.
Pour les amis. Vous êtes le délégué de l'Institut Ramon Llull de Paris. C'est quoi l'Institut Ramon Llull?
L'Institut Ramon Llull, l'organisme public du gouvernement de Catalogne et de la mairie de Barcelone pour la promotion internationale de la culture catalane.
Et donc il y a des instituts Ramon Llull un peu partout dans le monde?
Non, nous avons un fonctionnement très différent des autres instituts culturels. Ce sont des bureaux, des liaisons avec les agents culturels locaux. Donc nous avons des bureaux seulement à Paris, à Londres, à Berlin et à New York.
Cyril Trépied, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant à l'université de Cergy-Pontoise et un spécialiste de la Catalogne que vous connaissez très bien. Vous parlez d'ailleurs le catalan.
Je parle le catalan, oui.
Oscar Chenet, hola, bonjour, bon dia.
Bonjour.
Vous êtes enseignant à l'université autonome de Barcelone. Merci d'être en ligne de la capitale catalane. Bonjour Alain Dauvergne.
Bonjour.
Vous êtes conseiller à l'Institut Jacques Delors, l'Institut Jacques Delors qui par définition s'intéresse beaucoup à tout ce qui se passe en Europe. Vous êtes d'accord?
Oui, c'est son objet.
Alors avant d'entrer dans le vif de notre débat, nous allons faire un détour par la rédaction de Courrier International qui, dans son dernier numéro, propose une revue de presse catalano-espagnole. Bonjour Daniel Renon.
Bonjour.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que la victoire des indépendantistes catalans est pour le moins en demi-teinte.
Oui, exactement. En fait, c'est ce que nous on appelle une victoire amère pour les indépendantistes dans la mesure où on se pose un petit peu la question... L'ont-ils vraiment emporté cette élection? Alors oui, du point de vue des résultats concernant les mandats de députés, puisqu'ils ont 72 sièges sur 135, mais du point de vue du pourcentage des suffrages, ils n'arrivent pas à la majorité absolue, alors que Artur Mas, le leader de la coalition indépendantiste Ensemble pour le Oui, voulait faire un test plébiscitaire et donc obtenir la majorité absolue des voix. Avec 47,8% des votes, il n'a pas obtenu ce plébiscite qu'il attendait.
Alors du coup, tout le monde peut être content, les Catalans, parce que malgré tout, ils ont la majorité en siège, et puis les Espagnols, car ils constatent que la majorité en voix n'a pas été obtenue.
C'est ça. En fait, la presse catalane souligne que, en effet, on constate qu'une grande partie de cette société catalane souhaite des changements dans ses relations avec Madrid, mais qu'elle ne souhaite pas la rupture immédiate. La société, dit La Vanguardia de Barcelone, n'est pas fracturée, elle est divisée. Et de son côté, El Periódico de Catalunya, qui est un autre quotidien catalan, souligne les difficultés que vont avoir les indépendantistes parce qu'ils ne sont pas tous dans cette coalition, ils ne sont pas tous sur la même ligne et le leader Artur Mas n'est pas incontesté dans leur rang. Néanmoins, le bilan global, et c'est un petit peu El País qui nous le met en évidence, le bilan global c'est quand même que ces élections régionales ont montré que les électeurs étaient favorables à l'indépendance et que le gouvernement central de Madrid ne va pas pouvoir faire la sourde oreille.
Alors Oscar Janet, il y a eu beaucoup de joie dans les rues de Barcelone lors de la proclamation de ces résultats. Est-ce qu'on peut dire pour autant que cette élection que Artur Mas, le leader indépendantiste de Barcelone, de la Catalogne, est-ce qu'on peut dire que ces élections sont aussi historiques qu'on aurait pu l'imaginer?
Bon, c'est clair que pour tout le monde, c'est des élections historiques. Déjà parce qu'il y a eu 77% de participation, ce qui est beaucoup, au moins pour nous. Et de notre côté, avoir 77% et les résultats qu'il y a eu, que ce soit oui ou non, c'est vraiment spectaculaire. Alors les résultats, c'est vrai que ça a été une victoire amère, je pense que ça c'est une réalité, mais c'est pas une, d'un point de vue de ce que les gens qui voulaient l'indépendance, c'est pas une défaite, pas du tout, dans le sens où c'est beaucoup plus complexe que la vie qu'on peut avoir de l'étranger, surtout nous qu'on connaît beaucoup la France, le regard, la projection que l'on fait vers l'Espagne est très compliqué, d'après comment fonctionnent les parlements régionaux. C'est-à-dire, il y a eu 38% de oui, 39% vraiment qui disent non, et 11% de gens qui ont voté à gauche et qui ont voté qu'ils voudraient sûrement une indépendance, mais en le faisant dans un référendum normal. Donc, est-ce qu'il faut compter ce 11% dans le non? Est-ce qu'il faut le compter dans le oui? Donc, ce qui est clair, c'est que c'est pas la meilleure des voies et qu'il faudrait arriver à avoir un référendum un jour d'un côté ou de l'autre. Mais c'est clair que Madrid va jamais donner cette option et dire que la Catalogne est un sujet politique pour faire un référendum.
Alors, c'est vrai, si les rilles trépied, il y a d'un côté le bloc de non et le bloc des oui, où il y a l'indépendance non à l'indépendance, mais ce sont effectivement deux blocs très très complexes qui n'ont parfois pas grand-chose entre eux. Hein. La réunion des oui et la réunion des non.
Effectivement, ce sont des blocs très récents, si tant est qu'il s'agisse véritablement de blocs, parce que sur l'axe droite-gauche, les partisans du oui et les partisans du non n'ont pas la même vision des choses, et c'est normal.
Alors commençons par les partisans du oui, oui à l'indépendance. Il y a d'abord la coalition des Ensemble pour le oui, c'est Artur Mas d'un côté, et puis un parti social-démocrate de centre-gauche, on va le baptiser comme ça, mais à eux deux, ils ont obtenu 62 sièges sur 135, ils n'ont pas la majorité, et pour avoir la majorité, il faut avoir recours à 10 autres sièges qui viennent d'un parti d'extrême gauche, un peu la CUP, la candidature d'unité populaire, et entre Artur Mas et le leader de la CUP, il n'y a aucun point commun, c'est un petit peu comme si on voulait faire un gouvernement avec Nicolas Sarkozy d'un côté, François Hollande et puis Jean-Luc Mélenchon.
Effectivement, la coupe n'a pas de raison immense d'appuyer Artur Mas à titre personnel. Leur seul point commun, mais il est significatif, c'est évidemment le soutien à l'indépendance. Ensuite, la façon d'obtenir cette indépendance, c'est aussi un point de désaccord dans ce que chaque parti présente de manière officielle entre les deux. Et la CUP ne soutient pas particulièrement Artur Mas. Mais il faut quand même rappeler que Artur Mas n'a jamais obtenu la majorité absolue dans ses précédents gouvernements. Depuis fin 2010, il gouverne avec une majorité relative. Et c'est aussi une option pour lui de gouverner de nouveau avec uniquement les voix de la liste Junpersi, uniquement ses 62 sièges, en recherchant des alliances ponctuelles. Ce serait peut-être plus simple.
Alors, Raúl Martínez, qu'est-ce qui peut se passer maintenant ?
La situation est très complexe parce qu'on est devant des élections qui ont été présentées de deux façons différentes. Il s'agissait des élections au Parlement de la Catalogne, mais qui ont été présentées comme un plébiscite manque de pouvoir organiser un référendum. Pour moi, ça biaise.
Il y a une ambiguïté dès le départ.
Ça biaise les interprétations. Le résultat, il est là, un nombre de voix et un nombre de députés. Mais ça biaise les interprétations. Comme il a été dit, dans un plébiscite, on compterait les bulletins pour le oui et les bulletins pour le non. D'après le résultat obtenu, le oui obtient 1 957 000 voix. Le bloc du non obtient 1 605 000 voix. Il y a une différence de 300 000 voix. Pourquoi on interprète que le non serait majoritaire ? Parce qu'il y a aussi une poche de 500 000 voix qui ont déclaré, le responsable des partis ont déclaré la nuit du 27 qu'ils ne pouvaient pas être comptés dans le non parce qu'ils ne s'opposent pas à l'indépendance. Mais ils veulent le dire dans un référendum officiel. Donc on a biaisé absolument la lecture de ce résultat. Après, c'est vrai que on devait élire un parlement avec des députés. Il y a besoin d'une majorité, mais la composition des listes, par exemple, d'ensemble pour le oui, elle est très particulière. Il n'y a pas que ces deux partis, Esquerra Republicana et Convergencia Democrática. Il y a aussi un nombre très important de personnages qui ne sont affiliés à aucun parti, qui viennent de Òmnium Cultural, qui viennent de l'Assemblée Nationale Catalane, et qui n'ont aucune expérience en politique. Certains n'ont pas d'expérience en politique, d'autres en ont beaucoup, bien sûr. Il y a des juristes, il y a des avocats, il y a des économistes, il y a des journalistes, il y a des spécialistes en toutes disciplines. Quel était l'objectif de ces listes? Ramasser un maximum de voix pour un mandat qui était conçu pour durer 18 mois, pour mener un processus qui aboutirait dans une indépendance. C'est pour ça que, comme cet objectif, qui était le seul objectif de cette coalition, est partagé par la CUP, les possibilités de...
La CUP, c'est le parti d'extrême gauche.
Voilà, les possibilités d'un arrangement sont possibles, parce qu'il y a un objectif, même si on a voté un parlement régional, il y a un objectif seul derrière qui le réunit, qui était à la base de cette convocation.
Oscar Jeannet, est-ce que il y aura un gouvernement à Barcelone, mais on va pas faire toute l'émission là-dessus, et que pensez-vous des premières réactions de Madrid, et notamment de Mariano Rajoy, qui a dit, écoutez, je suis prêt à discuter de tout, sauf de la souveraineté de l'Espagne, c'est-à-dire de l'indépendance de la Catalogne.
Pour ce qui est du gouvernement de Madrid, je pense qu'il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire, ça fait déjà 4-5 ans que les gens se manifestent à Barcelone, qui demandent au moins d'être écoutés, d'avoir un dialogue et de pouvoir au moins décider, même quand il n'y a pas eu de dialogue. Et Madrid a toujours donné cette réponse qui est « on parle de tout sauf de cela ». Donc face à cela, je ne rentre pas dans le détail des actions que le gouvernement a portées, pas très en faveur de la Catalogne pendant ce temps-là. Donc c'est vrai que pendant ce temps-là, il y a beaucoup de monde qui a été très mécontent, même des gens qui n'étaient pas indépendantistes sont devenus indépendantistes, dans le sens que c'était une solution d'un point de vue démocratique, non seulement d'un point de vue d'indépendance. Et il faut, moi je pense que c'est le point le plus important pour être compris en dehors. C'est pas un parti nationaliste qui guide tout le processus, c'est vraiment un monde très transversal, vous l'avez dit, pour ce qui est le groupe de Junts pel Sí, donc ce groupe avec le Artur Mas et Esquerra Republicana.
Ensemble pour lui.
Voilà, et aussi la CUP, le groupe que vous dites d'extrême gauche, et même l'autre groupe qui est de gauche, qui serait plutôt l'ancien parti communiste avec des gens aussi de l'action sociale, etc., qui sont pour un référendum, mais ils ne se disent pas pour le oui et pour le non. Tout ce que le monde veut, en réalité, c'est un changement, une rupture avec ce qui se passe depuis très longtemps ici. Et ce n'est pas un mouvement nationaliste, c'est un mouvement qui va de la gauche à la droite. Je pense que c'est ce point-là qui est très intéressant, qui le différencie beaucoup de ce qui s'est passé en Écosse ou de ce qui peut se passer ailleurs en Europe. Et qui le rend aussi très ouvert d'un point de vue démocratique. Donc moi je pense que cela est très important. Pour ce qui peut se passer à partir du moment, on est de plein, par exemple ce matin j'écoutais aussi la radio, les différents positionnements des partis de la CUP ou des partis de Artur Mas. Finalement, comme vient de le dire Don Martinez, en fait ce référendum, l'idée était de mettre 18 mois pour faire ce processus et alors élire une constitution ou un vrai gouvernement à ce moment-là. Donc le gouvernement qui peut sortir maintenant, bien qu'il doit gouverner en Catalogne, etc., c'est un gouvernement qui va porter ce processus. Donc je pense que le grand débat entre la CUP qui a 10 députés et le Junts pel Sí qui a 62, donc c'est eux qui vont décider si ça va être Artur Mas ou pas, la personne qui va porter ce processus, c'est de savoir si ça va être d'un point de vue une voie de construction de ce processus, d'un point de vue plutôt populaire, ce qu'on voit déjà dans la liste même de Junts pel Sí, avant Raúl Martínez a expliqué qu'il y avait des gens qui étaient de la société civile, ou bien ce sera une construction d'une constitution, d'un processus plutôt institutionnel, c'est ce qui est, bon, on a plus l'habitude de voir cela du point de vue du parti d'Artur Mas.
Alain Domingue, vous voulez réagir?
Oui, non, je voulais juste faire une remarque qui est porte sur les délais. Ce délai de 18 mois, c'est intéressant, bien entendu, dans tous les États membres et dans les institutions, on va regarder ce qui se passe à la loupe, mais il va y avoir une espèce de possibilité de concurrence calendaire, si je puis dire, parce que avec l'Écosse, le problème peut se poser dans les mêmes délais. Si le référendum que M. Cameron a promis sur ce qu'on appelle le Brexit, c'est-à-dire est-ce que le Royaume-Uni veut ou non sortir de l'Union européenne, à supposer que la réponse donne « oui, on veut partir », à ce moment-là, l'Écosse va reposer le problème de son indépendance, car les Écossais, les nationalistes écossais, veulent absolument rester dans l'Union européenne. Et donc, si, comme on l'imagine, M. Cameron finalement organise ce référendum, non pas en 2017, mais l'an prochain, dans les calendriers européens, peut-être que le problème de l'indépendance d'une région va se poser davantage, plus vite en Écosse que finalement en Catalogne.
Alors, la position de Madrid, celle de Mariano Rajoy, très intransigeante pour l'instant, est-ce qu'elle est tenable, Cyril Trépied ?
Elle est logique en tout cas, effectivement, comme Oscar Janet l'a dit, il n'a pas changé de position après les élections catalanes. Vous parliez de calendrier, il y a une autre date à ajouter au calendrier, c'est celle des élections législatives espagnoles, cette fois, qui auront vraisemblablement lieu le 20 décembre prochain. Et d'ici là, il n'est pas certain que la situation sur le plan institutionnel évolue sensiblement entre Barcelone et Madrid.
Donc on est dans une période un petit peu attentiste.
Oui, une période attentiste qui ne facilite pas ce qui n'a jamais eu lieu jusqu'à présent, c'est-à-dire de vraies négociations entre les deux exécutifs avec une vraie attitude ouverte des deux parties.
Alors on peut dire que la première réaction, je ne sais pas si elle est directement celle de Mariano Rajoy, qui a été de convoquer, de mettre en examen Artur Mas pour désobéissance civile, ça augure mal d'un dialogue fructueux.
Effectivement, ça augure mal d'un dialogue fructueux, mais c'est là aussi une modalité d'affrontement entre les deux exécutifs traditionnels. Et d'ailleurs, l'action judiciaire contre Artur Mas et d'autres organisateurs de la consultation non référendaire pourtant du 9 novembre 2014 avait été lancée juste après ce scrutin sans valeur juridique. C'est pas une invention qui a été faite juste au lendemain des élections catalanes de dimanche dernier. Mais effectivement, oui, on reste dans l'affrontement traditionnel qui porte souvent sur le terrain judiciaire.
Alors, Harold Martínez, les Catalans ont 18 mois avant de proposer un peu ce référendum. En tout cas, c'est l'idée qu'ils ont. Qu'est-ce qu'ils vont faire pendant ces 18 mois? Est-ce qu'ils vont commencer à construire un État, avoir des représentations diplomatiques, avoir existé en dehors de l'Espagne ou pas?
Je voudrais d'abord réagir sur cette question des procès judiciaires traditionnels dans la perspective des élections du mois de décembre. L'acquisement de la part des gouvernements de Madrid, qu'ils soient le PSOE ou le PP, des conflits territoriaux, a toujours été une façon d'obtenir des voix dans le reste de l'Espagne. Même si la procédure judiciaire était déjà en cours bien avant, bien sûr, ça tombe très opportunément pour les élections du mois de décembre pour le Parti populaire, qui, je vous le rappelle, a fait l'un des pires scores dans des élections. Et que pour...
Oui, 8,5% voilà. Des voix et 11 députés contre 19 dans la précédente, voilà. Dans le précédent Parlement.
Il faut tenir compte que la Catalogne envoie 47 députés au Parlement de Madrid. Donc là, en Catalogne, le peuple obtiendrait que 3 députés si on pouvait transposer le résultat, ce qu'il ne faut pas faire parce que ce n'est pas transposable. Mais... La position de Mariano Rajoy est vraiment intenable. Elle, d'un point de vue politique, elle est intenable. Il joue la stratégie de la confrontation, bien sûr, pour tenter de gagner des voix ailleurs qu'en Catalogne, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 18 mois? On a déjà mis en place les dernières années la construction de structures pour l'autogouvernement de la Catalogne. Certains existent déjà depuis très longtemps puisqu'il y a une autonomie. On lance de nouveaux organismes qui permettraient une gestion totale de la vie politique et de la société. Bien sûr, c'est la demande l'implémentation des lois qui seront votées par le Parlement de la Catalogne. Le gouvernement de Madrid va présenter un recours devant la Cour constitutionnelle comme d'habitude et on va assister pendant des mois et des mois à un combat judiciaire qui sera arbitré par une Cour constitutionnelle dont les présidents à la carte d'un membre du parti du gouvernement.
En gros, entre la guérilla et la guerre de tranchées.
Ça sert un peu ça, mais aux tribunaux.
Mais devant les tribunaux, en attendant évidemment les élections de décembre, on ne sait pas encore exactement le jour, 13 décembre, 20 décembre, on ne sait pas exactement, qui seront évidemment déterminantes. Ce sera une deuxième étape, on y verra un peu plus clair.
En fonction de résultats des élections législatives à Madrid, en fonction de la majorité qui se dégagerait de ces élections, au moins un autre ton, d'autres possibilités de dialogue qui n'existent maintenant pourraient être envisagées, je pense.
On va faire une petite pause, le temps des infos sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, avant de retrouver nos invités, de poursuivre notre débat. Catalogne, la tentation de l'indépendance, Europe, le risque de la balkanisation. À tout de suite.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, bonsoir. Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Au lendemain des élections régionales en Catalogne, le résultat est pour le moins contrasté. Les partis indépendantistes ont obtenu la majorité des sièges au Parlement de Barcelone, mais pas la majorité en voix. Artur Mas, le leader des séparatistes, a crié victoire lors de la proclamation des résultats, mais on est loin du plébiscite qui l'escomptait en faveur de l'indépendance. En Grande-Bretagne, en Italie ou en Belgique, cette élection régionale a été suivie de près, car l'Écosse, l'Italie du Nord ou la Flandre belge ont elles aussi des tentations sécessionnistes. Quant aux institutions européennes de Bruxelles, elles sont restées muettes, mais elles restent inquiètes face au risque de balkanisation du continent. Je vous représente rapidement nos invités. Raoul Martinez, délégué de l'Institut Ramon Llull de Paris. Cyril Trépied, spécialiste de la Catalogne et enseignant à l'université Cergy-Pontoise. Oscar Genet, enseignant à l'université autonome de Barcelone en ligne de la capitale catalane. Et Alain Deverne, conseiller à l'Institut Jacques Delors. Alors, la Catalogne, en quelques mots, en quelques chiffres, 7 500 000 habitants, 16% de la population espagnole, mais 20% du PIB, un chômage aux alentours de 19% contre 22% en Espagne. La Catalogne, c'est une région un peu plus riche que le reste de l'Espagne. C'est même une région très riche, hein, Cyril Trépied.
C'est une région très riche, mais ce n'est pas la région la plus riche d'Espagne, parce que dans la concurrence à l'échelle de l'Espagne, la communauté autonome de Madrid l'a rattrapée et dépassée ces dernières décennies, certes pas toujours sans appui du gouvernement central.
Alors il y a, Raoul Martinez, une volonté d'indépendance que le résultat des élections a mis évidemment en évidence. Si on revient un petit peu en arrière, qu'est-ce qui explique cette volonté, ce désir d'indépendance des Catalans ?
S'il fallait résumer, la progression de cette option a été très rapide dans les dernières années.
Elle est relativement récente.
Elle est relativement récente. Il y a quelques années, la proportion des gens qui se disaient ouvertement pour l'indépendance était moindre. Qu'est-ce qui explique cette progression rapide? Pour moi, c'est clair, et c'est peut-être parce que les gens en ont en tête, c'est un ras-le-bol d'une mauvaise gouvernance, d'un manque de respect, de considération, d'un certain mépris de la part du gouvernement de Madrid. Si je peux étaler les arguments, je les articulerai autour de quatre choses. La Constitution espagnole parle dans le préambule du peuple espagnol qui ratifie la Constitution, et dans le même préambule parle des peuples d'Espagne au pluriel. Les contradictions sont déjà inscrites dans la Constitution. L'article 2 dit que la Constitution reconnaît et garantit les droits à l'autonomie des nationalités au pluriel et des régions. Mais vous voyez qu'il y a dans la Constitution une potentialité pour reconnaître des réalités nationales, puisqu'on parle des nationalités au pluriel, et il y a une pratique récurrente de la part de Madrid de vouloir peut-être récupérer ce qui est senti comme une concession par rapport au concept d'État-nation. La preuve a été que le statut de la Catalogne, qui a été voté en 2005, a été laminé sur ces points-là par le Parlement de Madrid et par la Cour constitutionnelle, alors que définir la Catalogne comme nation pouvait rentrer absolument dans ces cadres constitutionnels. Donc il y a de la part des Catalans un sentiment que le gouvernement de Madrid manque au respect de la Constitution dont il se réclame.
Est-ce que je peux résumer d'une phrase en disant que la tentation indépendantiste, autonome de la Catalogne est contrecarrée par une vision un peu centralisatrice de Madrid?
C'est sûr que les politiques menées par le dernier gouvernement espagnol ont été, vous m'excuserez du mot, d'une grande imbécilité et d'une grande myopie. myopie, puisque le cadre constitutionnel permet d'articuler les choses d'une façon ouverte, et on n'en serait pas là. Ça, c'est mon ressenti personnel. Cela se vit tous les jours dans ces débats autour de l'autonomie, précisément. Alors, vous avez d'un côté un gouvernement qui s'est dit autonome, qui peut administrer, disons, un budget, mais qui le donne le budget? C'est le gouvernement espagnol qui lève les impôts et qui dit, tenez, vous avez cet argent, si vous avez besoin de plus, vous vous débrouillez comme vous pouvez. L'autonomie, de ce point de vue-là, elle est assez limitée. Vous avez une deuxième chose, le gouvernement de la Catalogne émet des décrets. Le Parlement de Madrid peut émettre des lois d'un rang supérieur, des lois organiques qui envahissent les compétences du Parlement de la Catalogne. Ça crée des conflits. Ces conflits finissent régulièrement devant la Cour constitutionnelle. Et comme je vous l'ai expliqué, la Cour constitutionnelle est nommée proportionnellement à l'importance des partis politiques au Parlement de Madrid. Et depuis quelques années, la Cour constitutionnelle a mis 5 ans à trancher sur le statut, 4 ans, à trancher sur le statut d'autonomie catalan. Et puis, en ces moments et pendant toutes ces périodes, le président de la Cour constitutionnelle a exprimé son opinion sur le statut d'autonomie de la Catalogne en disant que les Catalans méprisaient la culture espagnole. Donc c'est quelqu'un qui manque manifestement d'objectivité.
Alors Oscar Jané, une des caractéristiques aussi de la Catalogne et des Catalans, c'est leur langue qui est évidemment très très importante. À Barcelone, quand on arrive, on est un peu surpris quand on ne le sait pas, mais on parle davantage le catalan que l'espagnol.
Je pense que le mouvement qui se passe depuis 4-5 ans, la langue n'est pas le principal. En fait, il y a eu des mouvements indépendantistes, il y a surtout un groupe indépendantiste qui s'appelle Sumate, qui était dans le groupe Junts pel Sí avec Mas, qui est un mouvement de castellano-parlant, qui veulent l'indépendance et qui l'expliquent ainsi. C'est-à-dire, c'est complexe. C'est-à-dire, la Catalogne, c'est vrai que sa chose principale, c'est la langue, c'est sa culture, etc. Que, d'origine, on disait toujours qu'il y avait un 20% d'indépendantistes très liés à cette idée identitaire, d'identité au moins. Mais c'est vrai que, d'après ce qu'expliquait Raoul Martínez, cette idée de refus, de non-compréhension, de gouvernement du PP comme du gouvernement socialiste, du gouvernement d'Aznar ou du rejet de le statut, il y a eu cette première grande manifestation en 2010 contre la sentence du tribunal constitutionnel. Il faut le dire, le gouvernement qu'il y avait alors en Catalogne était un gouvernement socialiste. C'était pas un gouvernement d'Artur Mas, et c'est ce gouvernement socialiste qui était devant, avec tous les autres présidents de la Catalogne qu'il y avait eu jusqu'alors, qui sont mis devant une manifestation de plus d'un million d'habitants. À partir de 2012, ces manifestations ont été non pas pour se plaindre, mais pour demander et essayer de choisir en avant. Donc c'était pas une réaction, action, comme avant. Et ce qui est le plus intéressant, et parfois on le dit pas trop, et c'est pour comprendre l'importance, quand on voit un million, deux millions, c'est pas grave, sur 7 millions d'habitants, fait de la traduction pour la France. C'est ce qu'on disait, qu'il y a 8 millions, 9 millions de personnes qui se manifestent à Paris, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Est-ce que c'est logique la réaction de Rajoy? Oui, c'est logique. C'est défensable? Non, je pense que c'est pas défensable. Même quand on parle avec des gens du monde politique en Europe, que j'ai parlé, etc., ils comprennent pas cet immobilisme de Rajoy avec une chose qui va lui exploser dans les mains, d'un monde catalan qui est très transversal, qui était toujours très intégrateur. Il faut penser que la Catalogne, moi-même, je suis à moitié origine andalouse, à moitié origine catalane, il y a des gens maintenant qui viennent d'ailleurs de l'Europe, etc. L'idée, même si la langue est intégratrice, l'idée, c'est l'intégration à travers les possibilités sociales, à travers la possibilité de pouvoir à réussir un petit peu dans sa vie. Et c'est ce réussir en commun qui est face à l'immobilisme et toujours rejet aux questions juridiques qui se portent depuis Madrid. Je pense que ça, c'est vraiment un petit peu le reflet de ce qui se passe un peu.
RFI à Barcelone, 105.3 FM.
Carrefour de l'Europe, Catalogne, la tentation de l'indépendance, Europe, le risque de balkanisation. Alors avant de voir comment une Catalogne indépendante pourrait se mouvoir ou pas dans l'Union Européenne, avec Maria Afonso, nous allons faire un petit tour d'Europe des tentations indépendantistes.
La Belgique, l'Italie et le Royaume-Uni doivent également réagir face à des volontés séparatistes. Dans ces pays, les régions qui rêvent d'indépendance sont souvent les plus riches. Et en période de restrictions budgétaires, les avantages économiques d'une séparation sont la plupart du temps mis en avant. Par exemple, les partisans de l'indépendance de la Catalogne insistent régulièrement sur le poids économique de leur région qui représente à peu près 19% du PIB espagnol. En Écosse, le SNP, le Parti National Écossais, affirme, je cite, que dans une Écosse indépendante, les Écossais seront plus riches de 1000 livres sterling par personne et par an. Même chose pour la Belgique, où le Parti indépendantiste flamand, le NVA, dirigé par Bart de Wever, affirme que la Flandre serait ultra performante et la Wallonie à la traîne. Bart de Wever, leader du NVA en mai 2014, encore sous l'émotion après la victoire de son parti lors des dernières élections fédérales.
Le bureau de notre parti est extrêmement content et heureux avec les résultats des élections. On n'avait jamais cru d'avoir une victoire tellement pertinente et importante. Un tiers des électeurs flamands a voté pour la NVA, ce qui est un résultat incroyable.
En Italie, les dirigeants de la Ligue du Nord rêvent, eux, de la création d'un nouvel État, la Padanie, dans le nord du pays. Les motifs invoqués ici pour l'indépendance sont aussi financiers. Le mouvement indépendantiste de la Ligue du Nord les résume en un slogan, Roma ladrona, que l'on peut traduire par Rome la voleuse. La Ligue du Nord ayant gagné aux dernières élections régionales les trois régions les plus riches du pays, Roberto Maroni, son leader, pose son parti comme un interlocuteur incontournable pour Rome.
Notre projet est de créer une macro-région du Nord capable de traiter avec Rome pour obtenir tout ce que nous voulons. Il existe un projet européen pour construire une euro-région autour des Alpes et de la Padanie. Elle comprend déjà quatre régions italiennes et des régions d'autres États, en Slovénie, en Carinthie, en Suisse ou en France. C'est le projet que je veux voir devenir réalité, mais à partir des régions italiennes.
Quant à l'Écosse, qui a réussi à imposer un référendum sur son indépendance l'année dernière, le verdict des urnes a été douloureux pour le SNP. Les Écossais ayant répondu non à plus de 55%, Alex Salmond, le leader historique du SNP, en a tenu compte et a laissé la place à Nicola Sturgeon. Ce qui a confirmé la popularité des indépendantistes, car lors des dernières élections législatives en mai dernier, ils ont ainsi remporté 56 des 59 sièges à la Chambre des communes à Londres. Et plus que jamais, Alex Salmond, l'ancien chef du Parti national écossais revendique l'indépendance de l'Écosse.
Nous avons obtenu 45% au référendum et non pas 55%, mais nous devons proclamer ce que nous savons tous, encore plus qu'avant, l'Écosse sera un pays indépendant. Ils pensaient que c'était la fin. Eh bien non, ce n'est pas fini.
Alors, fini ou pas, nous verrons, il faut attendre un petit peu. Alain Devien, il y a quand même un point commun entre ces quatre régions qu'on a citées, la Catalogne, la Flandre, l'Écosse et la Padanie, c'est-à-dire l'Italie du Nord. Le point commun de ces quatre régions qui sont sécessionnistes, c'est qu'elles sont toujours les plus riches dans le pays. C'est évidemment quelque chose qui est frappant.
Oui, c'est même une des deux caractéristiques principales. On pourrait d'ailleurs ajouter la Bavière qui ne réclame pas du tout son indépendance, mais qui manifeste souvent son exaspération de devoir payer pour les régions plus pauvres de l'Allemagne. Mais la deuxième caractéristique fondamentale, c'est que toutes ces régions revendique l'indépendance. La Ligue du Nord, d'ailleurs, est plus régionaliste que qu'indépendantiste. Mais parce qu'il y a un chapeau commun, c'est l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment général qu'on risque moins de s'enrhumer quand on sort en plein hiver, si on est à l'abri d'un toit commun. Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que au fond, dans tous ces cas-là, chacun ayant sa spécificité d'ailleurs, parce que nous sommes pas dans quelque chose d'uniforme, mais dans tous ces cas-là, l'idée que au fond ça n'engage pas à grand-chose, c'est pas dangereux de sortir de l'unité nationale qui avait prévalu jusque-là, c'est parce que il y a le toit commun de l'Union européenne.
Alors évidemment, le toit commun de l'Union européenne, est-ce qu'on peut dire, Cyril Trépied, que dans... Alors, vous êtes un spécialiste de la Catalogne, il y a aussi l'idée d'un refus de la solidarité des Catalans avec le reste de l'Espagne.
Alors bien sûr, cet argument existe et il a été mis en avant par rapport aux arguments traditionnels identitaires, ce que d'ailleurs a fait aussi Alex Salmond bien avant les élections
de le leader écossais.
Bien avant le référendum du 18 septembre 2014, pardon, en évinçant même les représentants au sein de son parti, le Scottish National Party, d'un courant identitaire au profit de ceux qui pouvaient parler de manière pragmatique d'une indépendance écossaise. Bien sûr, donc cet argument fonctionne dans le nationalisme catalan, surtout dans le contexte de la crise où cet argument peut être renforcé par l'idée que la Catalogne se sortirait bien avant et plus facilement de la crise sans appartenir à l'Espagne et donc sans les frais liés à, selon elle, à sa présence en Espagne.
C'est-à-dire qu'on comprend bien que la contribution nette de la Catalogne au budget de l'espagnol, il est supérieur. Il est considéré comme excessif, hein, c'est ça.
Dans un contexte, encore une fois, de crise qui ne...
C'est aussi ce que disent les Flamands à l'égard de la Wallonie, c'est ce que disent les Écossais par rapport aux Britanniques, évidemment, c'est ce que disent l'Italie du Nord par rapport à l'Italie du Sud.
Oui, mais c'est pas très difficile. Je suis d'accord avec ce que disait Monsieur Dauvergne, c'est pas très difficile de dire qu'on s'en sortirait mieux et on serait plus fort en étant en dehors d'un État, certes, mais par définition à l'intérieur de l'Union Européenne. Par définition, du point de vue des tenant de cette option. Maintenant, le lien avec l'Union européenne et la foi dans le projet européen diversifie un petit peu ces mouvements indépendantistes. Pour l'Écosse, c'est quelque chose qui est le fruit d'une évolution. Le nationalisme écossais n'est pas né d'emblée dans un contexte de foi dans le projet européen. En revanche, c'est le cas de l'indépendantisme catalan qui a toujours, depuis l'origine, manifesté sa foi dans le projet européen et considère que une indépendance dans le cadre européen, ce serait un retour aux sources.
Alors, on va pas rentrer dans la querelle d'experts. Est-ce que d'un point de vue économique, c'est plus intéressant pour la Catalogne d'être indépendante de l'Espagne ou pas? Là, il y a une querelle d'experts. Globalement, les industriels, le monde économique catalan est contre l'indépendance. Globalement, Raúl Martínez me fait nom de la tête. Enfin, je veux pas rentrer dans cette querelle catalo-catalane. La vraie question, Alain Dauvergne, c'est la Catalogne indépendante reste-t-elle automatiquement dans l'Union européenne?
Ah ben là, vous abordez une question de droit international absolument fondamentale, passionnante et vraiment très difficile. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse établie. Il y a eu des réponses du président de la Commission, qui était Monsieur Prodi, en 2004, qui a dit que, grosso modo, à partir du moment où une région devenait indépendante, elle devenait un État, et à partir du moment où c'est un nouvel État, eh bien, il faut qu'il soit candidat à l'adhésion à l'Union européenne, selon l'article 49 du traité de Lisbonne. Et ça veut dire que il faut faire tout le circuit classique.
Et ça prend du temps.
Ça prend naturellement beaucoup de temps, ça demande de longues négociations, et ça demande, in fine, la ratification par tous les États membres, ce qui rend évidemment la chose difficile, puisque les États centraux, en général, ne sont pas très favorables à un mouvement d'indépendance de la part de régions, quel que soit l'État. Mais c'est d'autant plus compliqué que, je vais donner un exemple. Le problème de la succession d'États en matière de traité, la base, c'est la Convention de Vienne de 1978. Cette Convention de Vienne n'a été ratifiée ni par l'Espagne, ni par la Belgique, ni par le Royaume-Uni.
Ce n'est pas par hasard.
On peut penser que ce n'est pas tout à fait par hasard. Du point de vue de l'Union européenne proprement dite, évidemment, les institutions seront très embarrassées. Mais c'est d'abord un problème interne aux États. Il faut d'abord qu'on règle le sujet à l'intérieur du Royaume-Uni, de l'Espagne et de la Belgique. La question ne survient pour les institutions européennes qu'à partir du moment où l'indépendance est éventuellement prononcée. À partir de cet instant, il faut savoir si on considère qu'il peut y avoir une solution qui soit de l'ordre de l'article 48, c'est-à-dire d'une procédure allégée, simplifiée, mais qui demande néanmoins in fine la ratification par tous les parlements. Ou si c'est la procédure plus lourde de l'article 49 dont on parlait tout à l'heure. Généralement, je crois que c'est la thèse de la plupart des juristes européens, et en tout cas à la Commission jusqu'à présent, c'est que c'est l'article 49 qui doit s'appliquer. Mais il y a des tas de questions annexes, bien entendu, qui surgissent. Par exemple, celle de la situation intermédiaire entre le moment où un nouvel État surgit et celui où éventuellement il intègre l'Union européenne.
Évidemment, la question de l'euro, quid de l'euro pour...
Quid de l'euro, mais quid de la citoyenneté, notamment. Le traité de Maastricht qui a consacré la citoyenneté européenne, qui a été confirmé et réaffirmé dans le traité de Lisbonne, donne donc aux citoyens des États européens la double nationalité, citoyenneté nationale, et la citoyenneté européenne. Mais est-ce que ça veut dire que, je sais pas moi, prenons un catalan, puisqu'on parle aujourd'hui de la Catalogne, la Catalogne devient indépendante, des négociations très longues et difficiles s'engagent sur comment faire pour que l'acquis communautaire soit repris par la Catalogne. En fait, elle l'a déjà. Mais enfin bon, il y a de très nombreuses difficultés dans les détails. Est-ce que les citoyens catalans resteraient ou non des citoyens de l'Union européenne pendant cette période de négociation? Le bon sens dit évidemment oui, mais en même temps, juridiquement, je ne sais pas, il y a une...
La question a été posée très récemment dans un interview au président du gouvernement espagnol, qui n'a pas su répondre à cette question.
On comprend bien qu'il était un petit peu dans l'embarras. Oscar Janet, est-ce que ces difficultés qu'Alain Devergne vient d'expliquer en quelques minutes, mais on sent bien que c'est très compliqué, est-ce que à Barcelone et en Catalogne, avec l'euphorie du résultat des élections, on balaye d'un revers de la main ces difficultés à venir? Quel est l'état d'esprit des Catalans, vous qui êtes à Barcelone en ce moment, à propos de, effectivement, comment rester dans l'Europe, car évidemment, il n'y a pas du tout la tentation de quitter l'Europe, en tout cas chez les Catalans.
Non, c'est clair que pour la Catalogne, rester dans l'Union européenne, par l'Europe évidemment, c'est quelque chose qui est intrinsèque à l'histoire même et l'économie catalane. Ce qui démontre les résultats de l'autre jour, c'est que peut-être il y a entre 10-15% de personnes qui doutent de ce point de vue, mais qu'il y a 48% qui n'ont pas eu peur dans le sens est-ce qu'on va quitter l'Europe ou pas. Mais je pense que de toute façon, cela reste du côté du jeu politique, des pressions politiques, parce que vous avez dit, bon, est-ce que les empresarios catalans sont pour, sont contre, ils ont peur ou pas, et là, il y aurait un débat. Mais ce qui est clair, c'est que la Catalogne, même si, mettons le cas, elle devient indépendante déjà, ça veut dire qu'il y a une reconnaissance d'État, parce que si tu deviens indépendant, on te met à la porte, ça veut dire qu'il y a une reconnaissance d'État, ce qui déjà serait le pas le plus difficile. Est-ce que, pour être mis à la porte, que l'Espagne fait un veto, il y aurait une reconnaissance de cet État? Deuxièmement, si cet État est reconnu, déjà, l'Espagne n'est plus l'Espagne. Donc, est-ce qu'elle aurait le même poids en Europe pour faire ce veto? Est-ce qu'elle aurait le même nombre de députés? Est-ce que ce sera la même chose? Là, c'est un débat où on n'en rentre jamais. Et troisièmement, et vous l'avez à moitié dit, même si c'est pas dit dans tous les statuts de l'Union européenne, parce qu'il n'y a pas eu de précédent vraiment, donc vous savez que l'Union européenne est surtout très pragmatique quand elle veut, et surtout dans un processus qui est démocratique, c'est très difficile de dire aux gens, oui, vous avez tous voté à faveur, mais on va vous mettre 7,5 millions de personnes à la porte. Bon, évidemment pas à la porte, parce qu'ils continuent d'être espagnols, donc ils sont citoyens européens, c'est le territoire qui reste ou pas. Mais il y a des moyens pour rester au milieu. Par exemple, l'Espagne même, qui est rentrée en l'année 86 à l'Union européenne, elle est de facto en Europe depuis l'année 69, avec des accords bilatéraux, etc., comme beaucoup d'autres territoires. Donc on peut être dans l'Union européenne, c'est-à-dire on peut avoir des accords dans la communauté économique européenne sans être vraiment officiellement dedans.
C'est par exemple le cas de la Suisse, effectivement.
Voilà, même au-delà. Mais je veux dire, pourquoi l'Espagne n'a pas été en 69, évidemment, parce qu'il y avait une dictature. On a attendu quelque temps pour mettre tout ça en ordre. Je veux dire que comme il n'y a pas de précédent, il peut se donner un processus de recommencer, mais pas recommencer 30 ans. C'est-à-dire on maintient tout comme on est pas officiellement dedans, mais on on est de facto dedans. Donc il y a beaucoup de possibilités, et tout ce qu'il y a dans les débats actuellement, on va sortir, l'euro, etc., pour moi, ce serait impensable, surtout parce que vous avez Barcelone qui est un des ports les plus importants de l'Union Européenne au sud, et surtout parce que l'Espagne aurait beaucoup de problèmes pour mettre leur parce qu'il n'y a pas une communauté de trains en Espagne, il y aurait beaucoup de problèmes pour mettre tous les camions qui passent avec le commerce qu'il y a vers l'Europe.
C'est sûr que ça créerait beaucoup de difficultés. Alain Delerm, voilà. On n'a plus qu'une petite minute. Je veux dire, le risque...
À partir du moment où on vit en Europe, on est européen, mais la question n'est pas celle-là. La question, c'est celle de la citoyenneté, ce qui est quand même très différent. Notamment, par exemple, vis-à-vis des ambassades ou des consulats dans les différents pays du monde, etc. Et quant à l'euro, c'est intéressant parce que est-ce qu'ils seront toujours membres de l'eurozone si l'État est indépendant et qu'on passe par toute la procédure d'adhésion? Non, ils ne sont pas, ils peuvent pas être dans l'eurozone. Mais en revanche, personne ne les empêche d'avoir l'euro. À mon avis, je vois pas pourquoi ils pourraient pas garder l'euro comme monnaie. Donc il faut vraiment regarder ça de manière extrêmement détaillée, de même que la répartition des sièges au Parlement européen, la répartition des voix au Conseil,
la répartition de la dette qui mettrait aussi
la répartition de l'Espagne, bien entendu.
Et tout d'un coup, l'équilibre européen en grande difficulté.
La façon dont on recalcule les fonds régionaux, les fonds structurels, etc. Donc tout ça demande un examen extrêmement poussé, extrêmement détaillé, des négociations certainement très difficiles, à la fois entre l'État national quitté et l'État national créé. L'Union européenne et ses institutions là-dedans auront évidemment un rôle majeur, mais qui n'est pas le seul rôle.
Alors je résume les prochaines étapes. Élections en décembre dans toute l'Espagne, évidemment en Catalogne. Un processus vers l'indépendance, en tout cas de 18 mois. En tout cas, c'est ce que a promis le futur gouvernement de Catalogne. Et puis beaucoup de travail en perspective pour les juristes catalans, espagnols et européens.
C'est un métier d'avenir.
C'est un métier d'avenir, juriste européen. Merci à tous les quatre d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Munier. Pour écouter cette émission et tout savoir sur nos invités, rendez-vous sur la page internet et sur les applis mobiles de RFI, sans oublier bien sûr les réseaux sociaux Facebook et Twitter pour rester en contact. Daniel Lesesquel, où que vous soyez, à Barcelone, à Madrid, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.